Bonjour, bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Nous allons parler de l'hypothèse de la Terre blanche quand notre planète était une boule de neige en compagnie de Pierre Thomas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géologue, professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Pierre Thomas, on a du mal à imaginer que la Terre, un jour, ait vu tous ses continents couverts de glace, les océans gelés sur des centaines de mètres d'épaisseur, des pôles à l'équateur. À ciel bleu, sans nuages, sans signe de vie, rien, tout figé, tout cristallisé. Ça s'est vraiment passé?
On a de très très bonnes raisons de le penser. Évidemment, on n'a pas de témoignages directs, mais on a un nombre de témoignages indirects très impressionnant. Le plus beau témoignage, il y en a deux en fait. Il y avait à cette époque-là, c'est pas très vieux. Pour un géologue, c'est 750 millions d'années. C'est-à-dire que la vie existait déjà depuis plus de 2 milliards d'années, il y avait des bactéries partout, la mer devait être pleine de bactéries, il y avait sans doute des bactéries qui vivaient par terre sur les continents, il n'y avait pas d'animaux compliqués, il n'y avait pas de plantes compliquées, mais il y avait déjà de la vie. Et on peut faire de la géologie, parce qu'on trouve des cailloux, des rochers, des coulées de lave, etc. Et on voit des cailloux qu'on appelle des moraines. Ça, vous allez dans les Alpes, vous trouvez des moraines, c'est des cailloux déposés par des glaciers. Quand un glacier passe, il dépose des cailloux, puis quand il avance, il racle la roche. On voit des roches striées par l'avancée des glaciers. Or, il y a 750 millions d'années, de ces moraines et de ces cailloux striés, on en trouve sur tous les continents. On va dans l'océan. Dans l'océan, il y a de la boue qui se dépose tranquillement. Et on voit dans les couches de boue, qui maintenant évidemment sont devenues de la pierre depuis 550 millions d'années, des gros cailloux qui sont tombés et en tombant, ils ont déformé les couches de boue dans lesquelles ils sont tombés. Comme si dans de la boue, vous jetiez un gros caillou. Qui achetait des gros cailloux dans de la boue au milieu de la mer? C'est pas un géant. La seule façon d'imaginer ça, c'est de penser qu'il y avait des icebergs qui portent des gros cailloux. L'iceberg fond, le gros caillou tombe. Alors on trouve donc dans les sédiments marins des preuves qu'il y avait des icebergs partout, dans les sédiments terrestres qu'il y avait des glaciers qui passaient et qui raclaient. Alors on dit, c'est normal, si on trouve ça, on trouve ça autour du Groenland. Vous allez au bord du Groenland trouver ça. Mais on sait reconstituer la position des continents. Vous savez que les continents, ça dérive. Et toutes ces traces, comme je vous ai dit, les cailloux qui tombent, on appelle ça les dropstones, admirez ma prononciation anglaise, les moraines, les roches striées, on en trouve sur des continents qui étaient au pôle, sur des continents qui étaient dans la zone tempérée, sur des continents qui étaient au tropique et sur des continents qui étaient à l'équateur.
À l'équateur.
À l'équateur, et idem pour les mers. C'est-à-dire qu'il y a 750 millions d'années, il y avait des glaciers, des icebergs, des glaciers qui arrivaient dans la mer. Donc au niveau du continent, c'est comme si un glacier descendait maintenant du mont Cameroun, du rocher de Rio de Janeiro, la mer de glace entre les rochers de Rio de Janeiro se jetant dans la mer. Et tous les endroits qu'on trouve à cette époque-là, il y a de la glace partout. Donc on est arrivé à dire que la Terre devait être blanche, les continents recouverts de glace, la mer gelée en banquise. L'épaisseur, je ne sais pas si c'était 10, 20 ou 100 mètres, mais ça devait être assez épais quand même.
Alors, à cette époque-là, sur la Terre, il y a un super continent qui s'appelle la Rodinia,
oui.
En un seul morceau.
Voilà.
Et qu'est-ce qui a pu se passer?
Alors, les continents, beaucoup de gens, quand vous lisez les mauvais livres de sciences de la vie et de la Terre, ou les mauvais livres de vulgarisation, on vous dit que Wegener a dit, donc il y a 250 millions d'années, il y avait un continent unique qui s'est dispersé. On parle de la Pangée qui s'est dispersée. C'est parfaitement vrai. On oublie de dire qu'avant que ce continent unique, il y a 250 millions d'années, ce continent unique, il est fait de la rassemblement de continents. Les continents passent leur temps à se balader, à la vas-y comme je te pousse. Et quand on se balade parfaitement au hasard, et de temps en temps, par hasard, on se rentre dedans tous au même endroit. La dernière fois que c'est arrivé, c'est il y a 250 millions d'années. Et l'avant-dernière fois, c'est justement il y a 750 millions d'années. Entre les deux, les continents s'étaient redispersés et se sont re-rassemblés, donc il y a 250 millions d'années. Alors les continents se sont tous rassemblés. Alors ça a des effets assez curieux. Dans l'intérieur de la Terre, il y a de la chaleur qui est produite par la radioactivité, et la chaleur a du mal à sortir sous les continents. Donc si elle est produite et qu'elle ne sort pas, elle s'accumule. Et si elle s'accumule, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va faire beaucoup de volcans. Et vers 750 millions d'années, il y a probablement eu beaucoup de volcans qui sont sortis sur ce grand continent. Les volcans, ça crache du basalte. Et les basaltes, ce sont des roches riches en calcium. Donc, il y avait des roches riches en calcium à la surface. Sur ces basaltes, il pleuvait. Quand vous pleuvez sur une roche riche en calcium, vous libérez des sels de calcium. Ces sels de calcium, ils arrivent à la mer, et là, ils prennent du gaz carbonique pour devenir du calcaire. Donc, beaucoup de basaltes, ça veut dire que quelques dizaines de millions d'années après, vous mettez en marche une pompe à gaz carbonique extraordinaire.
Quand vous dites qu'ils prennent du gaz carbonique, ça veut dire que le calcium
se fixe avec le gaz carbonique de l'air pour donner du calcaire. Alors, donc, première cause de pompage du gaz carbonique, ces grands volcans qui ont eu lieu. Et puis, ces volcans, à force de sortir, ça a tellement chauffé le continent unique qu'il s'est cassé en morceaux. Donc, les morceaux sont partis dans toutes les directions. Quand vous avez un continent unique, au milieu, par définition, je dirais que vous êtes très loin de la mer. Donc, il ne pleut pas beaucoup. Si vous cassez votre continent en 1000 morceaux, il n'y a plus beaucoup d'endroits qui sont loin de la mer. Donc, il pleut beaucoup partout. Donc, on a un continent unique, cassé en 1000 morceaux, plein de basalte, où il pleuvait beaucoup partout. Donc, vous altériez beaucoup et vous libériez encore plus de calcium puisqu'il pleuvait beaucoup. Et le phénomène s'est emballé, le gaz carbonique a baissé. L'effet de serre a diminué, et il a fait froid. Et la Terre a gelé.
Et ça n'est... Alors, c'est une très belle démonstration, mais ça n'est pas compensé par la quantité de gaz libéré par les volcans qui ont du soufre, du gaz carbonique, voilà. Beaucoup de gaz
mais
à effet de serre.
Globalement, un volcan, pendant une éruption, ça va libérer, je dis, X mètres cubes de gaz carbonique. Et ça va faire du basalte. Mais l'altération du basalte va absorber peut-être 10 fois X mètres cubes de gaz carbonique. Donc le volcan, pendant qu'il est en éruption, il fait un coup de chaud. Une fois que le coup de chaud est fini, il y a le basalte qui est toujours là. Et lui, son altération va se mettre à pomper le CO2 et beaucoup plus que ce que les volcans ont libéré. Donc un volcan, ça fait d'abord, pendant l'éruption, un coup de froid. Parce que ça enlève des poussières, ça cache le soleil et tout ça. Ensuite, pendant quelques milliers d'années ou millions d'années, un coup de chaud à cause du gaz carbonique. Et ensuite, un gigantesque coup de froid, mais qui va être très long, le temps qu'on altère tout ce basalte qui va libérer son calcium et faire du calcaire.
Alors, pendant des millions d'années, il va faire moins 40, moins 50. C'est quand même une Terre qui a un drôle de look.
Bon, vous regardez Europe ou Ganymède, c'est pareil.
C'est-à-dire ?
Satellite de Jupiter, vous prenez Europe, c'est un satellite de Jupiter, entièrement recouvert d'un océan. Et cet océan est gelé sur 10 km d'épaisseur. Et dessous, il est liquide. Mais vous avez une boule d'océan gelé avec une banquise de 10 km.
Alors la question, c'est comment on en sort ? C'est-à-dire comment on n'est pas resté alors que ça a duré... On sait combien de temps ça a duré ? Plusieurs millions d'années ?
Oh, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé au moins deux fois. Une fois vers 750 millions d'années et une fois vers, on va dire, 600 ou 580.
Comment on en sort ?
Alors... On pourrait dire on s'en sort parce qu'on a arrêté de une fois que tout le gaz on a absorbé tout le gaz carbonique parce que tous les basaltes ont été altérés. Donc on veut dire on va sortir. Mais c'est plus difficile que ça parce que si la Terre est blanche, elle renvoie vers l'espace toute l'énergie qui reçoit du soleil. Pour les astronomes, on parle qu'elle a un très grand albédo, quasiment de 1. Vous savez très bien que vaut mieux quand on est un sol neigeux, le matin, il fait très froid parce que justement toute la chaleur s'en va. Et n'importe quel physicien pas très malin vous dira qu'une Terre blanche, elle est blanche pour l'éternité. Il y a une chose que le physicien pas très malin n'aurait pas pensé, c'est les volcans. Quand la Terre est couverte de glace, tout est figé. Alors bien sûr, les continents se déplacent encore, mais vous avez peut-être 3-4 km de glace sur les continents, vous avez peut-être 10-100 mètres de glace sur les océans, la vie vit au ralenti, l'érosion est ralentie, tout était ralenti. Je fais une grande parenthèse. Actuellement, on a du gaz carbonique dans l'atmosphère, qui nous pose quelques soucis. Ce gaz carbonique, il passe son temps à être absorbé, rejeté. C'est ce qu'on appelle le cycle du carbone. L'équilibre est dynamique. À cette époque-là, on avait un équilibre, si on peut dire, mais qui était statique. Tout était figé. Donc, on avait une certaine teneur en gaz carbonique. Plus rien ne rentrait, plus rien ne sortait. À une exception près, c'est qu'il continue à sortir le gaz des volcans. Donc, petit à petit, le gaz carbonique a monté. Et malgré que le fait que la Terre soit blanche, l'effet de serre est devenu tellement grand qu'on a pu faire fondre, au moins au niveau de l'équateur. Et puis ensuite, ça a gagné tout le reste, la Terre, qui est devenue passée de boule de neige à Terre, comme on la connaît.
Donc là, c'est l'effet de serre qui nous a sauvés.
Ah ben, l'effet de serre, tout le temps nous sauve. Il n'y aurait pas d'effet de serre, il ferait moins 18 de température moyenne sur la Terre. Donc, heureusement qu'il y a l'effet de serre. Mais là, il nous a bien sauvés, sinon la Terre serait encore une boule de glace.
Alors, autre chose surprenante, c'est la vie. La vie que vous nous décriviez comme étant très présente, déjà très développée, vraisemblablement.
Oui, probablement unicellulaire.
Unicellulaire,
mais très développée.
Elle a résisté.
Alors, elle a plusieurs façons de résister. D'abord, elle peut résister au niveau des sources chaudes, des eaux hydrothermales et tout ça. Et la vie bactérienne, qui a besoin de lumière pour vivre, peut résister en vivant sous la banquise. Sous la banquise dans le pôle Nord, il y a plein d'algues et de bactéries qui vivent. 10 mètres de glace, ça n'arrête pas la lumière. Alors, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est une vie ralentie. mais c'est pas un problème que la vie subsiste. Mais ça a quand même dû faire une énorme hécatombe, en particulier sur les continents. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la vie existait vers à la fin de la dernière grande glaciation, celle qui a eu lieu vers 600, 580 millions d'années. Avant, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'animaux compliqués. Il y avait quelques petits animaux, c'était surtout des unicellulaires. Et c'est à cette époque-là qu'il y a eu l'explosion des animaux compliqués.
Explosion du Cambrien.
C'est un peu avant. L'explosion du Cambrien, c'est 40 millions d'années après. Là, c'est l'explosion, je parle, Ediacara, où on a quasiment fait déjà beaucoup de choses. On a fait des vers, on a fait des animaux compliqués. Pas aussi compliqués, mais... Et cette explosion, cette première explosion des animaux compliqués, c'est juste à la fin. Là où il y avait le plus de vie, c'est sur les côtes. Les continents étaient encore assez désertiques, mais toutes les côtes, les zones balayantes des marées, il y avait des algues, etc. Mais il devait y avoir beaucoup de bactéries, ça ne devait pas être très bien. Tout ça, c'est mort, à 99%. Et quand c'est redevenu à l'air, il y avait plein, on va dire, d'écosystèmes de libres. Et l'évolution était très facile, il y avait plein de niches écologiques de libres, donc l'évolution a explosé et la vie animale s'est diversifiée. C'est ce qu'on appelle la faune d'Ediacara, 570, 80 millions d'années. Alors il y a eu une autre explosion après, c'est celle qui a fait quasiment tous les grands groupes animaux qui existent, dont nous, les vertébrés. Ça, c'est 540 millions d'années. C'est indépendant des glaciations, a priori.
Alors le géologue s'inscrit sur des périodes de temps, on le comprend bien, de millions d'années. Aujourd'hui, on s'inquiète de l'émission anthropique, ce que l'homme fabrique comme activité qui génère de l'émission de gaz à effet de serre. On ne doit pas oublier ces grandes variations entre guillemets naturelles et qu'on peut observer justement dans des extrêmes comme l'hypothèse de la Terre blanche.
Ou même sans aller jusqu'à la Terre blanche, moi j'habite à Lyon. Et il y a 140 000 ans, les glaciers des Alpes atteignaient Lyon. Les hommes de Cro-Magnon peignaient, qu'est-ce qu'ils peignaient à Lascaux ? Des rennes. S'ils peignaient des rennes et des mammouths à poils laineux, c'est que le climat de Lascaux, c'était l'équivalent du climat du nord de la Norvège aujourd'hui. Donc des variations climatiques, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Elles étaient un peu plus lentes que maintenant. Ça fait 150 ans qu'on se met à brûler du charbon et du pétrole à un rythme conséquent. Et là, on a des variations qui n'ont rien d'extraordinaire, sauf qu'elles sont très rapides. On a fait 30% de plus de CO2 en 100 ans. Alors, 30% de plus de CO2, c'était déjà arrivé très souvent, mais jamais en si peu de temps. Alors, donc, la première cause, c'est que, par exemple, quand la température monte, les végétaux se déplacent. Chez nous, il y a du hêtre et du chêne qui poussent. Si ça se réchauffe, le hêtre, qui n'aime pas trop les climats chauds, globalement, va remonter au nord. Alors, mais le problème, c'est que le hêtre, il ne peut pas marcher pour remonter au nord. Alors, quand on dit remonte au nord, c'est les graines de hêtre. Les graines de hêtre du nord de la forêt pousseront mieux que celles du sud de la forêt. Et en quelques dizaines de siècles, la forêt de hêtre remontera dans le nord. Si cette variation, au lieu de se faire en 10 siècles, se fait en un demi-siècle, les hêtres seront obligés de crever sur place et ne pourront pas reconstituer des nouvelles forêts de hêtre. Donc, le danger pour la biosphère, c'est que ça va trop vite. Alors, si on peut se consoler, c'est que ça ne va pas durer longtemps, cette histoire. Parce qu'on brûle du charbon depuis 100 ans, 150 ans, pétrole depuis un peu moins longtemps, du pétrole dans 50 ans, il n'y en a plus, du gaz dans 100 ans, il n'y en a plus, du charbon dans 300 ans, il n'y en a plus. Donc, l'augmentation anthropique de l'effet de serre va s'arrêter par l'absurde, quand on n'aura plus rien à brûler. Mais d'ici là, on aura peut-être pris 5 degrés de plus, d'ici là, il y aura des oliviers à Londres, le Bordeaux, l'équivalent, poussera très bien en Écosse. Mais que vont faire les Bordelais comme vin, je ne sais pas. On pourrait dire qu'ils font des oliviers.
Du Sidi Ibrahim.
Ouais, du Sidi Ibrahim. Mais que feront les gens qui actuellement font du Sidi Ibrahim ? Donc là, il y aura un énorme problème de variation climatique. À l'échelle de la Terre, c'est pas grand-chose. Mais à l'échelle de l'humanité, pour nos enfants, nos petits-enfants, ça risque d'être très grave.
Est-ce que ça peut être compensé par un mouvement naturel ?
Oui, mais pas si vite. Les mouvements naturels, on les connaît. Actuellement, on est dans ce qu'on appelle une période interglaciaire. Et elle est due à l'astronomie, des variations subtiles d'orbite de la Terre. On sait très bien quand est-ce qu'il y aura la prochaine glaciation. Enfin, très bien. C'est a priori dans 40 000 ans, et si on loupe 40 000 ans, c'est dans 60. Et ça va se faire. Parce qu'il n'y aura plus de gaz carbonique depuis longtemps dans l'atmosphère à cette époque-là. Mais il n'y a pas de causes naturelles qui vont aussi vite que ce qu'on fait.
On conservera pour le géologue des traces, oui, de la période que nous vivons aujourd'hui.
Ah oui, il y a même un nom, on l'appelle le poubélien supérieur. Hein. Supérieur, je ne sais pas pourquoi, mais le poubélien, comme ça. J'ai un ami qui est déjà... Il y a longtemps que ça soit, qui est descendu dans les soucoupes plongeantes au fond de la Méditerranée. Vous êtes à 3000 mètres de fond, au fond de la Méditerranée. À votre avis, qu'est-ce que vous voyez ? Vous êtes au milieu au hasard, vous avez des traces d'activité humaine partout. À votre avis, c'est quoi? Je vous pose la devinette.
Du plastique?
Non. Ça flotte plutôt, donc il n'y en a pas trop en bas. Eh bien, on ne peut pas y penser, c'est des mâchefers, des cendres, pendant un siècle de marine à vapeur. Que faisait on brûlait des tonnes de charbon dans les... Et qu'est-ce qu'ils faisaient des cendres? On les jetait par-dessus bord. Hein? Donc, on trouve des morceaux de cendres, et ça, pour le géologue, c'est des silicates à haute température. Donc, on verra de la boue, avec dedans, ça ressemble un peu à du minerai de fer, hein, les cendres, des choses qui sont faites à haute température. Pour le géologue, dans quelques millions d'années, ce sera très surprenant de voir des roches de haute température mélangées à de la boue et des fossiles, des choses comme ça. Donc, et puis il y aura des tas d'autres traces, des pollutions, par exemple le plomb, les sédiments qui se déposent actuellement, il y a un pic de plomb, grosso modo, contemporain de l'automobile, qu'on trouve dans les glaces, mais les glaces auront fondu dans 10-50 millions d'années. Mais les sédiments qui se déposent au fond de la mer, il y aura une couche très riche en plomb à cause de nos automobiles.
Alors vous avez noté la disparition des carburants fossiles à horizon pour les plus importants, en tout cas le charbon de trois siècles. Restera-t-il quelque chose sur Terre à exploiter qui soit dans les océans, sous la croûte terrestre?
Les géologues vont certainement trouver d'autres sources de charbon, de pétrole et tout ça. On va pouvoir, je dis 300 ans, ça sera peut-être 400, 500 si on trouve des briques, autre chose. Mais on est sûr que d'ici quelques siècles, il n'y aura plus. Alors, ce qu'on appelle les ressources fossiles. C'est-à-dire que tout ce que la nature a mis en réserve, elle en met encore en réserve. On fabrique du charbon de nos jours.
Toujours?
Oui, il y a des régions, des deltas de l'Amazone doivent faire du pétrole, et les mangroves d'Indonésie font du charbon. Mais pour un kilo de charbon fabriqué dans la nature, l'homme en brûle un million de fois plus. Donc les réserves vont se reconstituer, mais pour dans 100 millions d'années. Donc c'est sûr que si on ne trouve pas quelque chose de fondamentalement nouveau, du genre la fusion de l'hydrogène, comme on fera peut-être à ITER, des choses comme ça, il y aura un énorme problème énergétique. On est en train de manger notre pain blanc énergétique. Hein, on brûle notre vaisseau sans savoir si, vous savez, qu'on brûlait ses meubles pour se chauffer, et on ne sait pas si on va trouver autre chose. Peut-être que les physiciens vont trouver, peut-être pas. Alors, toutes les solutions du genre l'uranium, par exemple, là encore, c'est pareil, c'est une ressource fossile. L'uranium, le minerai d'uranium, ne sont pas très abondants. Les gens disent, oui, il y en a pour un siècle de réserve. C'est pas mal un siècle, le charbon, il y en a plus que ça. Et puis c'est un siècle quand 10% de l'énergie consommée est en uranium. Si toute l'énergie de la Terre c'était l'uranium, il n'y en aurait peut-être pas pour un siècle. Sur ce, les réserves d'uranium étant plus ou moins des secrets stratégiques, je ne suis pas très sûr de mes chiffres. Hein. Là, peut-être qu'il y a de l'uranium dans des coins que je ne connais pas.
Avant d'aller chercher de l'hélium-3 sur la Lune.
Voilà, on va gratter un peu l'uranium terrestre. Puis l'uranium, ça a tous les dangers qu'on connaît, Tchernobyl et déchets nucléaires. Mais c'est sûr, là, on mange notre pain blanc énergétique, donc il faudrait vraiment faire attention.
Et dans les océans?
Dans les océans, par exemple, il y a de l'uranium dans l'océan, il y a tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez dire quand on dit l'énergie des océans? Le gaz naturel qu'on trouve dans les sédiments?
Par exemple?
Voilà, alors ça, c'est comme j'ai dit, il y a trois siècles de réserves, ça sera peut-être 4 ou 5, parce qu'on sait qu'il y a d'énormes réserves de gaz naturel, globalement par 1000 mètres de fond, au pied des continents. Ils sont sous forme de glace, ce qu'on appelle des clatrates. Ça va peut-être doubler les réserves, ce truc-là. Ça ne change pas le problème. Vous êtes l'hiver, vous savez que vous avez 3 mois d'hiver, vous n'avez plus que pour une semaine de charbon. On double les réserves, vous avez 2 semaines de charbon. C'est bien, mais ça ne résout pas le problème.
Pour boucler, Pierre Thomas, avec la Terre primitive que nous avons décrite dans un premier podcast, puis cette Terre blanche gelée, glacée, il y a 750 millions d'années, puis la Terre que nous vivons aujourd'hui, le géologue sait-il prévoir à quoi ressemblera la Terre dans 1 milliard d'années si on la laisse suivre son bonhomme de chemin?
On la laissera suivre son bonhomme de chemin, quoi qu'on fasse.
Elle sera froide?
Non. Froide l'intérieur ou l'extérieur?
Extérieur, là où nous vivons.
Non, parce que le Soleil réchauffe. Les astronomes nous disent que l'énergie produite par le Soleil, qui est une étoile sur sa séquence principale, augmente de tant de pourcents par milliard d'années. Donc, a priori, dans 1 milliard d'années, ça aura, mettons, peut-être 10% de plus. Alors, ça tombe très bien, parce que le gaz carbonique ne fait que baisser. Alors, tout le monde pense, a très peur de l'augmentation du gaz carbonique, mais je dis c'est une augmentation brève et qui ne durera pas. Quand on aura brûlé le dernier morceau de charbon, ça reviendra comme c'était avant. Mais globalement, ce qui donne du gaz carbonique à l'atmosphère, c'est les volcans. Ce qui le perd, c'est la fabrication de nouveaux calcaires. Et ça fait 4 milliards d'années qu'on fabrique un peu plus de nouveaux calcaires que les volcans. C'est pour ça que le gaz carbonique ne fait que baisser. Globalement, il est divisé par 10 tous les milliards d'années. Et il n'a jamais été aussi bas que maintenant. Donc on en est à 0,03%. C'est vraiment pas beaucoup, 0,03% de gaz carbonique. On ne peut pas descendre beaucoup plus. Quand on sera à 0,0, on ne pourra pas beaucoup descendre plus. On a pour l'instant 30 degrés d'effet de serre. Si le soleil augmente de façon à ce que la température naturelle augmente de 60 degrés, et si en plus l'effet de serre est plus bas, eh bien il fera chaud. Donc probablement d'ici 1, 2, 3, 4 milliards d'années, je ne sais pas, la Terre va être invivable parce que chaude. Si le soleil vraiment augmente, si le gaz carbonique baisse plus vite que le soleil n'augmente, ça je suis incapable de le dire, peut-être qu'avant cet épisode chaud, on aura de nouveau un épisode boule de neige. Les épisodes boule de neige, on a failli en avoir un, d'ailleurs, il y a 300 millions d'années, quand il y avait du charbon en France, quand on se fabriquait du charbon en France il y a 300 millions d'années, parce que la France était l'équateur. Mais il y avait une énorme calotte glaciaire qui couvrait tout l'Antarctique, la moitié de l'Afrique, toute l'Australie, la moitié de l'Inde et tout ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous dis qu'il y avait des glaciers à Lyon, il y a 140 millions d'années. Les glaciers à Londres, il y a 50... toute l'Allemagne, toute l'Europe du Nord, il y avait des glaciers à Central Park, à New York. Donc, actuellement, on est une époque où les glaciers sont petits, Groenland, Antarctique. Dans 40 000 ans ou 60 000 ans, les glaciers se remettent à avancer. Et donc, c'est rare les époques à glaciers. Là, on est une époque très froide en ce moment. La moyenne de la température de la Terre, on va dire, sur depuis un petit milliard d'années, c'est plutôt 25 degrés. Et là, la moyenne de la Terre, c'est plutôt 15 degrés en ce moment. Alors, je peux même vous dire pourquoi il fait froid. S'il fait froid actuellement, c'est à cause de l'Himalaya. L'Himalaya, c'est une énorme chaîne de montagnes qui est un climat mousson. Donc, il pleut des quantités astronomiques d'eau. Et donc, cette pluie sur l'Himalaya use, érode l'Himalaya, ça libère des ions calcium, ça pompe du gaz carbonique. Le gaz carbonique baisse sur Terre très lentement, mais très sûrement, depuis à peu près 80 millions d'années, à cause de l'Himalaya. Et c'est pour ça qu'il commence à faire très froid.
Merci Pierre Thomas. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast de Ciel et Espace. Rendez-vous dans un prochain épisode.